Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Chapitre 7 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 7. L'intérieur des Mousquetaires. Lorsque D'Artagnan fut hors du Louvre et qu'il consulta ses amis sur l'emploi qu'il devait faire de sa part des 40 pistoles, Athos lui conseilla de commander un bon repas à la pomme de pin, Porthos de prendre un laquais et Aramis de se faire une maîtresse convenable. Le repas fut exécuté le jour même, et le laquais y servit à table. Le repas avait été commandé par Athos, et le laquais fourni par Porthos. C'était un picard que le glorieux mousquetaire avait embauché le jour même à cette occasion sur le pont de la Tournelle, pendant qu'il faisait des ronds en crachant dans l'eau. Porthos avait prétendu que cette occupation était la preuve d'une organisation réfléchie et contemplative, et il l'avait emmené sans autre recommandation. La grande mine de ce gentilhomme, pour le compte duquel il se crut engagé, avait séduit Planchet. C'était le nom du picard. Il y eut chez lui un léger désappointement lorsqu'il vit que la place était déjà prise par un confrère nommé Mousqueton, et lorsque Porthos lui eut signifié que son état de maison, quoique grand, ne comportait pas deux domestiques, et qu'il lui fallait entrer au service de D'Artagnan. Cependant, lorsqu'il assista au dîner que donnait son maître, et qu'il vit celui-ci tirer, en payant, une poignée d'or de sa poche, il crut sa fortune faite et remercia le ciel d'être tombé en la possession d'un pareil crésus. Il persévéra dans cette opinion jusqu'après le festin, des reliefs duquel il répara de longues abstinences. Mais en faisant le soir le lit de son maître, les chimères de Planchet s'évanouirent. Le lit était le seul de l'appartement, qui se composait d'une antichambre et d'une chambre à coucher. Planchet coucha dans l'antichambre, sur une couverture tirée du lit de D'Artagnan, et dont D'Artagnan se passa depuis. Athos, de son côté, avait un valet qu'il avait dressé à son service d'une façon toute particulière et que l'on appelait Grimaud. Il était fort silencieux, ce digne seigneur. Nous parlons d'Athos, bien entendu. Depuis 5 ou 6 ans qu'il vivait dans la plus profonde intimité avec ses compagnons Porthos et Aramis, ceux-ci se rappelaient l'avoir vu sourire souvent, mais jamais ils ne l'avaient entendu rire. Ses paroles étaient brèves et expressives, disant toujours ce qu'elles voulaient dire, rien de plus. Pas d'enjolivement, pas de broderie, pas d'arabesque. Sa conversation était un fait sans aucun épisode. Quoique Athos eût à peine 30 ans et fût d'une grande beauté de corps et d'esprit, personne ne lui connaissait de maîtresse. Jamais il ne parlait de femme. Seulement, il n'empêchait pas qu'on en parlât devant lui, quoiqu'il fût facile de voir que ce genre de conversation, auquel il ne se mêlait que par des mots amers et des aperçus misanthropiques, lui était parfaitement désagréable. Sa réserve, sa sauvagerie et son mutisme en faisaient presque un vieillard. Il avait donc, pour ne point déroger à ses habitudes, habitué Grimaud à lui obéir par un simple geste ou sur un simple mouvement des lèvres. Il ne lui parlait que dans des circonstances suprêmes. Quoique Grimaud, qui craignait son maître comme le feu, tout en ayant pour sa personne un grand attachement et pour son génie une grande vénération, croyait avoir parfaitement compris ce qu'il désirait, s'élançait pour exécuter l'ordre reçu et faisant précisément le contraire. Alors, Athos haussait les épaules et, sans se mettre en colère, rossait Grimaud. Ces jours-là, il parlait un peu. Porthos, comme on a pu le voir, avait un caractère tout opposé à celui d'Athos. Non seulement il parlait beaucoup, mais il parlait haut. Peu lui importait au reste, il faut lui rendre cette justice, qu'on l'écoutât ou non. Il parlait pour le plaisir de parler et pour le plaisir de s'entendre. Il parlait de toutes choses, excepté de science, excipant à cet endroit de la haine invétérée, que depuis son enfance il portait, disait-il, aux savants. Il avait moins grand air qu'Athos, et le sentiment de son infériorité à ce sujet l'avait, dans le commencement de leur liaison, rendu souvent injuste pour ce gentilhomme, qu'il s'était alors efforcé de dépasser par ses splendides toilettes. Mais, avec sa simple casaque de mousquetaire, et rien que par la façon dont il rejetait la tête en arrière et avançait le pied, Athos prenait à l'instant même la place qui lui était due et reléguait le fastueux Porthos au second rang. Porthos s'en consolait en remplissant l'antichambre de M. de Tréville et les corps de garde du Louvre du bruit de ses bonnes fortunes, dont Athos ne parlait jamais. Et pour le moment, après avoir passé de la noblesse de robe à la noblesse d'épée, de la robine à la baronne, il n'était question de rien de moins pour Porthos que d'une princesse étrangère qui lui voulait un bien énorme. Un vieux proverbe dit « Tel maître, tel valet ». Passons donc du valet d'Athos au valet de Porthos, de Grimaud à Mousqueton. Mousqueton était un Normand dont son maître avait changé le nom pacifique de Boniface en celui infiniment plus sonore de Mousqueton. Il était entré au service de Porthos à la condition qu'il serait habillé et logé seulement, mais d'une façon magnifique. Il ne réclamait que 2 heures par jour pour les consacrer à une industrie qui devait pourvoir à ses autres besoins. Porthos avait accepté le marché. La chose lui allait à merveille. Il faisait tailler à Mousqueton des pourpoints dans ses vieux habits et dans ses manteaux de rechange. Et, grâce à un tailleur fort intelligent qui lui remettait ses hardes à neuf en les retournant, et dont la femme était soupçonnée de vouloir faire descendre Porthos de ses habitudes aristocratiques, Mousqueton faisait à la suite de son maître fort bonne figure. Quant à Aramis, dont nous croyons avoir suffisamment exposé le caractère, caractère que, du reste, comme celui de ses compagnons, nous pourrons suivre dans son développement, son laquais s'appelait Bazin. Grâce à l'espérance qu'avait son maître d'entrer un jour dans les ordres, il était toujours vêtu de noir, comme doit l'être le serviteur d'un homme d'église. C'était un berrichon de 35 à 40 ans, doux, paisible, grassouillet, occupant à lire de pieux ouvrages les loisirs que lui laissait son maître, faisant à la rigueur pour eux un dîner de peu de plats, mais excellent. Au reste, muet, aveugle, sourd, et d'une fidélité à toute épreuve. Maintenant que nous connaissons, superficiellement du moins, les maîtres et les valets, passons aux demeures occupées par chacun d'eux. Athos habitait rue Férou, à 2 pas du Luxembourg. Son appartement se composait de 2 petites chambres, fort proprement meublées, dans une maison garnie dont l'hôtesse, encore jeune et véritablement encore belle, lui faisait inutilement les yeux doux. Quelques fragments d'une grande splendeur passée éclataient çà et là aux murailles de ce modeste logement. C'était une épée, par exemple, richement damasquinée, qui remontait, pour la façon à l'époque de François Ier, et dont la poignée seule, incrustée de pierres précieuses, pouvait valoir 200 pistoles, et que cependant, dans ses moments de plus grande détresse, Athos n'avait jamais consenti à engager ou à vendre. Cette épée avait longtemps fait l'ambition de Porthos. Porthos aurait donné 10 années de sa vie pour posséder cette épée. Un jour qu'il avait rendez-vous avec une duchesse, il essaya même de l'emprunter à Athos. Athos, sans rien dire, vida ses poches, ramassa tous ses bijoux, bourses, aiguillettes et chaînes d'or. Il offrit tout à Porthos. Mais quant à l'épée, lui dit-il, elle était scellée à sa place et ne devait la quitter que lorsque son maître quitterait lui-même son logement. Outre son épée, il y avait encore un portrait représentant un seigneur du temps de Henri III, vêtu avec la plus grande élégance et qui portait l'ordre du Saint-Esprit. Et ce portrait avait, avec Athos, certaines ressemblances de lignes, certaines similitudes de famille, qui indiquaient que ce grand seigneur, chevalier des ordres du roi, était son ancêtre. Enfin, un coffre de magnifique orfèvrerie, aux mêmes armes que l'épée et le portrait, faisait un milieu de cheminée qui jurait effroyablement avec le reste de la garniture. Athos portait toujours la clef de ce coffre sur lui. Mais un jour, il l'avait ouvert devant Porthos, et Porthos avait pu s'assurer que ce coffre ne contenait que des lettres et des papiers. Des lettres d'amour et des papiers de famille, sans doute. Porthos habitait un appartement très vaste et d'une très somptueuse apparence, rue du Vieux Colombier. Chaque fois qu'il passait avec quelques amis devant ses fenêtres, à l'une desquelles Mousqueton se tenait toujours en grande livrée, Porthos levait la tête et la main et disait « Voilà ma demeure ». Mais jamais on ne le trouvait chez lui. Jamais il n'invitait personne à y monter. Et nul ne pouvait se faire une idée de ce que cette somptueuse apparence renfermait de richesses réelles. Quant à Aramis, il habitait un petit logement composé d'un boudoir, d'une salle à manger et d'une chambre à coucher, laquelle chambre, située comme le reste de l'appartement au rez-de-chaussée, donnait sur un petit jardin frais, vert, ombreux et impénétrable aux yeux du voisinage. Quant à D'Artagnan, nous savons comment il était logé, et nous avons déjà fait connaissance avec son laquais, Maître Planchet. D'Artagnan, qui était fort curieux de sa nature, comme sont les gens du reste, qui ont le génie de l'intrigue, fit tous ses efforts pour savoir ce qu'étaient, au juste, Athos, Porthos et Aramis. Car sous ces noms de guerre, chacun des jeunes gens cachait son nom de gentilhomme. Athos surtout, qui sentait son grand seigneur d'une lieue. Il s'adressa donc à Porthos pour avoir des renseignements sur Athos et Aramis, et à Aramis pour connaître Porthos. Malheureusement, Porthos lui-même ne savait de la vie de son silencieux camarade de ce qui en avait transpiré. On disait qu'il avait eu de grands malheurs dans ses affaires amoureuses, et qu'une affreuse trahison avait empoisonné à jamais la vie de ce galant homme. Quelle était cette trahison? Tout le monde l'ignorait. Quant à Porthos, excepté son véritable nom, que M. de Tréville savait seul, ainsi que celui de ses deux camarades, sa vie était facile à connaître. Vaniteux et indiscret, on voyait à travers lui comme à travers un cristal. La seule chose qui eût pu égarer l'investigateur eût été que l'on eût cru tout le bien qu'il disait de lui. Quant à Aramis, tout en ayant l'air de n'avoir aucun secret, c'était un garçon tout confit de mystère, répondant peu aux questions qu'on lui faisait sur les autres, et éludant celles que l'on faisait sur lui-même. Un jour, D'Artagnan, après l'avoir longuement interrogé sur Porthos et en avoir appris ce bruit qui courait de la bonne fortune du mousquetaire avec une princesse, voulut savoir aussi à quoi s'en tenir sur les aventures amoureuses de son interlocuteur. « Et vous, mon cher compagnon, lui dit-il, vous qui parlez des baronnes, des comtesses et des princesses des autres ?»« Pardon, interrompit Aramis, j'ai parlé parce que Porthos en parle lui-même, parce qu'il a crié toutes ces belles choses devant moi. Mais croyez bien, mon cher monsieur d'Artagnan, que si je les tenais d'une autre source, ou qu'il me les eût confiées, il n'y aurait pas eu de confesseur plus discret que moi. Je n'en doute pas, reprit d'Artagnan, mais enfin, il me semble que vous-même, vous êtes assez familier avec les armoiries, témoin certains mouchoirs brodés auxquels je dois l'honneur de votre connaissance. Aramis, cette fois, ne se fâcha point, mais il prit son air le plus modeste et répondit affectueusement, « Mon cher, n'oubliez pas que je veux être d'église et que je fuis toutes les occasions mondaines. Ce mouchoir que vous avez vu ne m'avait point été confié, mais il avait été oublié chez moi par un de mes amis. J'ai dû le recueillir pour ne pas les compromettre, lui et la dame qu'il aime. Quant à moi, je n'ai point et ne veux point avoir de maîtresse. » Suivant en cela l'exemple très justicieux d'Athos, qui n'en a pas plus que moi. Mais que diable, vous n'êtes pas abbé, puisque vous êtes mousquetaire. Mousquetaire par intérim, mon cher, comme dit le cardinal, mousquetaire contre mon gré, mais homme d'église dans le cœur, croyez-moi. Athos et Porthos m'ont fourré là-dedans pour m'occuper. J'ai eu, au moment d'être ordonné, une petite difficulté avec eux. Mais cela ne vous intéresse guère, et je vous prends un temps précieux. Point du tout, cela m'intéresse fort, s'écria d'Artagnan, et je n'ai pour le moment absolument rien à faire. Oui, mais moi, j'ai mon bréviaire à dire, répondit Aramis, puis quelques vers à composer, que m'a demandé Madame d'Aiguillon. Ensuite, je dois passer rue Saint-Honoré, afin d'acheter du rouge pour Madame de Chevreuse. Vous voyez, mon cher ami, que, si rien ne vous presse, je suis très pressé, moi. » Et Aramis tendit affectueusement la main à son jeune compagnon et prit congé de lui. D'Artagnan ne put, quelque peine qu'il se donnât, en savoir davantage sur ses trois nouveaux amis. Il prit donc son parti de croire dans le présent tout ce qu'on disait de leur passé, espérant des révélations plus sûres et plus étendues de l'avenir. En attendant, il considéra Athos comme un Achille, Porthos comme un Ajax et Aramis comme un Joseph. Au reste, la vie de ces quatre jeunes gens était joyeuse. Athos jouait, et toujours malheureusement. Cependant, il n'empruntait jamais un sou à ses amis, quoique sa bourse fût sans cesse à leur service. Et lorsqu'il avait joué sur parole, il faisait toujours réveiller son créancier à 6 heures du matin pour lui payer sa dette de la veille. Porthos avait des fougues. Ces jours-là, s'il gagnait, on le voyait insolent et splendide. S'il perdait, il disparaissait complètement pendant quelques jours, après lesquels il repassait, le visage blême et la mine allongée, mais avec de l'argent dans ses poches. Quant à Aramis, il ne jouait jamais. C'était bien le plus mauvais mousquetaire et le plus méchant convive qui se pût voir. Il avait toujours besoin de travailler. Quelquefois, au milieu d'un dîner, quand chacun, dans l'entraînement du vin et dans la chaleur de la conversation, croyait que l'on en avait encore pour 2 ou 3 heures à rester à table, Aramis regardait sa montre, se levait avec un gracieux sourire et prenait congé de la société pour aller, disait-il, consulter un casuiste avec lequel il avait rendez-vous. D'autres fois, il retournait à son logis pour écrire une thèse et priait ses amis de ne pas le distraire. Cependant, Athos souriait de ce charmant sourire mélancolique, si bien séant à sa noble figure. et Porthos buvait, en jurant qu'Aramis ne serait jamais qu'un curé de village. Planchet, le valet de D'Artagnan, supporta noblement la bonne fortune. Il recevait 30 sous par jour, et pendant un mois, il revenait au logis, gai comme un pinson et affable envers son maître. Quand le vent de l'adversité commença à souffler sur le ménage de la rue des Fossoyeurs, c'est-à-dire quand les 40 pistoles du roi Louis XIII furent mangées, ou à peu près, il commença des plaintes qu'Athos trouva nauséabondes, Porthos indécentes et Aramis ridicules. Athos conseilla donc à D'Artagnan de congédier le drôle. Porthos voulait qu'on le bâtonnât auparavant, et Aramis prétendit qu'un maître ne devait entendre que les compliments qu'on fait de lui. « Cela vous est bien aisé à dire, reprit D'Artagnan, à vous, Athos, qui vivez muet avec Grimaud, qui lui défendez de parler, et qui, par conséquent, n'avez jamais de mauvaises paroles avec lui. Quant à vous, Porthos, qui menez un train magnifique, et qui êtes un dieu pour votre valet Mousqueton, à vous enfin, Aramis, qui, toujours distrait par vos études théologiques, inspirez un profond respect à votre serviteur Bazin, homme doux et religieux, mais moi qui suis sans consistance et sans ressources, moi qui ne suis pas mousquetaire ni même garde, moi, que ferais-je pour inspirer de l'affection, de la terreur ou du respect à Planchet ?» La chose est grave, répondirent les trois amis. C'est une affaire d'intérieur. Il en est des valets comme des femmes. Il faut les mettre tout de suite sur le pied où l'on désire qu'ils restent. Réfléchissez donc. D'Artagnan réfléchit et se résolut à rouer Planchet par provision, ce qui fut exécuté avec la conscience que D'Artagnan mettait en toute chose. Puis, après avoir bien rossé, il lui défendit de quitter son service sans sa permission. Car, ajouta-t-il, l'avenir ne peut me faire faute. J'attends inévitablement des temps meilleurs. Ta fortune est donc faite si tu restes près de moi, et je suis trop bon maître pour te faire manquer ta fortune en t'accordant le congé que tu me demandes. Cette manière d'agir donna beaucoup de respect aux mousquetaires pour la politique de D'Artagnan. Planchet fut également saisi d'admiration et ne parla plus de s'en aller. La vie des 4 jeunes gens était devenue commune. D'Artagnan, qui n'avait aucune habitude, puisqu'il arrivait de sa province et tombait au milieu d'un monde tout nouveau pour lui, prit aussitôt les habitudes de ses amis. On se levait vers 8 heures en hiver, vers 6 heures en été, et l'on allait prendre le mot d'ordre et l'air des affaires chez M. de Tréville. D'Artagnan, bien qu'il ne fût pas mousquetaire, en faisait le service avec une ponctualité touchante. Il était toujours de garde, parce qu'il tenait toujours compagnie à celui de ses 3 amis qui montait la sienne. On le connaissait à l'hôtel des mousquetaires, et chacun le tenait pour un bon camarade. M. de Tréville, qu'il avait apprécié du premier coup d'œil, et qui lui portait une véritable affection, ne cessait de le recommander au roi. De leur côté, les 3 mousquetaires aimaient fort leur jeune camarade. L'amitié qui unissait ces 4 hommes, et le besoin de se voir 3 ou 4 fois par jour, soit pour duel, soit pour affaire, soit pour plaisir, les faisait sans cesse courir l'un après l'autre, comme des ombres. Et l'on rencontrait toujours les inséparables, se cherchant du Luxembourg à la place Saint-Sulpice ou de la rue du Vieux-Colombier au Luxembourg. En attendant, les promesses de M. de Tréville allaient leur train. Un beau jour, le roi commanda à M. le chevalier des Essarts de prendre D'Artagnan comme cadet dans sa compagnie des gardes. D'Artagnan endossa en soupirant cet habit, qu'il eût voulu, au prix de 10 années de son existence, troqué contre la casaque de mousquetaire. Mais M. de Tréville promit cette faveur après un noviciat de 2 ans, noviciat qui pouvait être abrégé au reste si l'occasion se présentait pour D'Artagnan de rendre quelque service au roi ou de faire quelque action d'éclat. D'Artagnan se retira sur cette promesse et, dès le lendemain, commença son service. Alors, ce fut le tour d'Athos, de Porthos et d'Aramis de monter la garde avec D'Artagnan quand il était de garde. La compagnie de M. le chevalier des Essarts prit ainsi 4 hommes au lieu d'un, le jour où elle prit D'Artagnan. Fin du chapitre 7. Chapitre 8 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 8. Une intrigue de cour. Cependant, les 40 pistoles du roi Louis XIII, ainsi que toutes les choses de ce monde, après avoir eu un commencement, avaient eu une fin. Et depuis cette fin, nos 4 compagnons étaient tombés dans la gêne. D'abord, Athos avait soutenu, pendant quelque temps, l'association de ses propres deniers. Porthos lui avait succédé, et, grâce à une de ces disparitions auxquelles on était habitué, il avait, pendant près de 15 jours encore, subvenu aux besoins de tout le monde. Enfin, était arrivé le tour d'Aramis, qui s'était exécuté de bonne grâce, et qui était parvenu, disait-il, en vendant ses livres de théologie, à se procurer quelques pistoles. On eut alors, comme d'habitude, recours à M. de Tréville, qui fit quelques avances sur la solde. Mais ces avances ne pouvaient conduire bien loin 3 mousquetaires qui avaient déjà force compte arriérés, et un garde qui n'en avait pas encore. Enfin, quand on vit qu'on allait manquer tout à fait, on rassembla par un dernier effort 8 ou 10 pistoles que Porthos joua. Malheureusement, il était dans une mauvaise veine. Il perdit tout, plus 25 pistoles sur parole. Alors, la gêne devint de la détresse. On vit les affamés, suivis de leurs laquais, courir les quais et les corps de garde, ramassant chez leurs amis du dehors tous les dîners qu'ils purent trouver, car, suivant l'avis d'Aramis, on devait, dans la prospérité, semer des repas à droite et à gauche pour en récolter quelques-uns dans la disgrâce. Athos fut invité 4 fois et mena chaque fois ses amis avec leurs laquais. Porthos eut 6 occasions et en fit également jouir ses camarades. Aramis en eut 8. C'était un homme, comme on a déjà pu s'en apercevoir, qui fait peu de bruit et beaucoup de besogne. Quant à D'Artagnan, qui ne connaissait encore personne dans la capitale, il ne trouva qu'un déjeuner de chocolat chez un prêtre de son pays, et un dîner chez un cornette des gardes. Il mena son armée chez le prêtre, auquel on dévora sa provision de 2 mois, et chez le cornette qui fit des merveilles. Mais, comme le disait Planchet, on ne mange toujours qu'une fois, même quand on mange beaucoup. D'Artagnan se trouva donc assez humilié de n'avoir eu qu'un repas et demi, car le déjeuner chez le prêtre ne pouvait compter que pour un demi-repas, à offrir à ses compagnons, en échange des festins que s'étaient procurés Athos, Porthos et Aramis. Il se croyait à charge à la société, oubliant dans sa bonne foi toute juvénile qu'il avait nourri cette société pendant 1 mois, et son esprit préoccupé se mit à travailler activement. Il réfléchit que cette coalition de 4 hommes jeunes, braves, entreprenants et actifs devait avoir un autre but que des promenades déhanchées, des leçons d'escrime et des lazis, plus ou moins spirituels. En effet, 4 hommes comme eux, 4 hommes dévoués les uns aux autres, depuis la bourse jusqu'à la vie, quatre hommes se soutenant toujours, ne reculant jamais, exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun, quatre bras menaçant les quatre points cardinaux ou se tournant vers un seul point, devaient inévitablement, soit souterrainement, soit au jour, soit par la mine, soit par la tranchée, soit par la ruse, soit par la force, s'ouvrir un chemin vers le but qu'il voulait atteindre, si bien défendu ou si éloigné qu'il fût. La seule chose qui étonna d'Artagnan, c'est que ses compagnons n'eussent point songé à cela. Il y songeait, lui, et sérieusement même, se creusant la cervelle pour trouver une direction à cette force unique quatre fois multipliée, avec laquelle il ne doutait pas que, comme avec le levier que cherchait Archimède, on ne parvint à soulever le monde, lorsque l'on frappa doucement à la porte. D'Artagnan réveilla Planchet et lui ordonna d'ouvrir. Que de cette phrase « D'Artagnan réveilla Planchet » le lecteur n'aille pas augurer qu'il faisait nuit ou que le jour n'était point encore venu. Non, 4 heures venaient de sonner. Planchet, 2 heures auparavant, était venu demander à dîner à son maître, lequel lui avait répondu par le proverbe « Qui dort, dîne ». Et Planchet dînait en dormant. Un homme fut introduit, de mine assez simple, et qui avait l'air d'un bourgeois. Planchet, pour son dessert, eut bien voulu entendre la conversation, mais le bourgeois déclara à D'Artagnan que ce qu'il avait à lui dire était important et confidentiel. Il désirait demeurer en tête-à-tête avec lui. D'Artagnan congédia Planchet et fit asseoir son visiteur. Il eut un moment de silence pendant lequel les deux hommes se regardèrent comme pour faire une connaissance préalable. Après quoi, D'Artagnan s'inclina en signe qu'il écoutait. « J'ai entendu parler de M. D'Artagnan comme d'un jeune homme fort brave, » dit le bourgeois, « et cette réputation dont il jouit, à juste titre, m'a décidé à lui confier un secret. « Parlez, monsieur, parlez, » dit D'Artagnan, qui, d'instinct, flaira quelque chose d'avantageux. Le bourgeois fit une nouvelle pause et continua. « J'ai ma femme qui est lingère chez la reine, monsieur, et qui ne manque ni de sagesse ni de beauté. On me l'a fait épouser, voilà bientôt 3 ans, quoiqu'elle n'eût qu'un petit avoir, parce que M. de la Porte, le porte-manteau de la reine, est son parrain et la protège. « Eh bien, monsieur ?» demanda D'Artagnan. « Eh bien, » reprit le bourgeois, « eh bien, monsieur, ma femme a été enlevée hier au matin, comme elle sortait de sa chambre de travail. » « Et par qui votre femme a-t-elle été enlevée ?»« Je n'en sais rien sûrement, monsieur, mais je soupçonne quelqu'un. » « Et quelle est cette personne que vous soupçonnez ?»« Un homme qui la poursuivait depuis longtemps. » « Diable !»« Mais que voulez-vous que je vous dise, monsieur ?» continua le bourgeois. « Je suis convaincu qu'il y a moins d'amour que de politique dans tout cela. » « Moins d'amour que de politique, » reprit D'Artagnan, d'un air fort réfléchi. « Et que soupçonnez-vous ?»« Je ne sais pas si je devrais vous dire ce que je soupçonne. »« Monsieur, je vous ferai observer que je ne vous demande absolument rien, moi. C'est vous qui êtes venu, c'est vous qui m'avez dit que vous aviez un secret à me confier. Faites donc à votre guise, il est encore temps de vous retirer. » « Non, monsieur, non. Vous m'avez l'air d'un honnête jeune homme, et j'aurai confiance en vous. Je crois donc que ce n'est pas à cause de ses amours que ma femme a été arrêtée, mais à cause de celle d'une plus grande dame qu'elle. Ah, ah, serait-ce à cause des amours de Madame de Bois-Tracy ? » fit D'Artagnan, qui voulut avoir l'air, vis-à-vis de son bourgeois, d'être au courant des affaires de la cour. « Plus haut, monsieur, plus haut. » De Madame d'Aiguillon? Plus haut encore. De Madame de Chevreuse? Plus haut, beaucoup plus haut. De la... D'Artagnan s'arrêta. Oui, monsieur, répondit si bas, qu'à peine, si on put l'entendre, le bourgeois épouvanté. Et avec qui? Avec qui cela peut-il être, si ce n'est avec le duc de...
Le duc de...
Oui, monsieur, répondit le bourgeois, en donnant à sa voix une intonation plus sourde encore.
Mais comment savez-vous tout cela, vous?
Ah, comment je le sais?
Oui, comment le savez-vous?
Pas de demi-confidence, ou vous comprenez?
Je le sais par ma femme, monsieur, par ma femme elle-même.
Qui le sait, elle, par qui?
Par monsieur de la Porte.
Ne vous ai-je pas dit qu'elle était la filleule de monsieur de la Porte, l'homme de confiance de la reine?
Eh bien, monsieur de la Porte l'avait mise près de sa majesté, pour que notre pauvre reine, au moins, eût quelqu'un à qui se fier.
Abandonnée comme elle l'est par le roi, espionnée comme elle l'est par le cardinal, trahie comme elle l'est par tous.
Ah, ah, voilà qui se dessine, dit d'Artagnan.
Or, ma femme est venue il y a 4 jours, monsieur. Une de ses conditions était qu'elle devait me venir voir 2 fois la semaine, car, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, ma femme m'aime beaucoup. Ma femme est donc venue et m'a confié que la reine, en ce moment-ci, avait de grandes craintes.
Vraiment?
Oui, monsieur le cardinal, à ce qu'il paraît, la poursuit et la persécute plus que jamais. Il ne peut pas lui pardonner l'histoire de la sarabande. Vous savez l'histoire de la sarabande?
Par Dieu, si je la sais, répondit d'Artagnan, qui ne savait rien du tout, mais qui avait voulu avoir l'air d'être au courant.
De sorte que, maintenant, ce n'est plus de la haine, c'est de la vengeance.
Vraiment?
Et la reine croit?
Eh bien, que croit la reine?
Elle croit que l'on a écrit à monsieur le duc de Buckingham en son nom.
Au nom de la reine?
Oui, pour le faire venir à Paris, et une fois venu à Paris, pour l'attirer dans quelque piège.
Diable, mais votre femme, mon cher monsieur, qu'a-t-elle à faire dans tout cela?
On connaît son dévouement pour la reine, et l'on veut ou l'éloigner de sa maîtresse, ou l'intimider pour avoir les secrets de sa majesté, ou la séduire pour se servir d'elle comme d'un espion.
C'est probable, dit d'Artagnan,
mais l'homme qui l'a enlevé, le connaissez-vous?
Je vous ai dit que je croyais le connaître.
Son nom?
Je ne le sais pas.
Ce que je sais seulement, c'est que c'est une créature du cardinal, son âme damnée.
Mais vous l'avez vu?
Oui, ma femme me l'a montré un jour.
A-t-il un signalement auquel on puisse le reconnaître?
Oh, certainement. C'est un seigneur de haute mine, poils noirs, teint basané, œil perçant, dents blanches et une cicatrice à la tempe.
Une cicatrice à la tempe, s'écria d'Artagnan.
Et avec cela, dents blanches, œil perçant, teint basané, poils noirs et haute mine. C'est mon homme de Meung.
C'est votre homme, dites-vous?
Oui, oui, mais cela ne fait rien à la chose.
Non, je me trompe. Cela le simplifie beaucoup, au contraire. Si votre homme est le mien, je ferai d'un coup 2 vengeances. Voilà tout. Mais où rejoindre cet homme?
Je n'en sais rien.
Vous n'avez aucun renseignement sur sa demeure?
Aucun.
Un jour que je reconduisais ma femme au Louvre, il en sortait comme elle allait y entrer, et elle me l'a fait voir.
Diable, diable, murmura d'Artagnan, tout ceci est bien vague.
Par qui avez-vous su l'enlèvement de votre femme?
Par monsieur de la Porte.
Vous a-t-il donné quelques détails?
Il n'en avait aucun.
Et vous n'avez rien appris d'un autre côté?
Si fait, j'ai reçu...
Quoi?
Mais je ne sais pas si je ne commets pas une grande imprudence.
Vous revenez encore là-dessus. Cependant, je vous ferai observer que, cette fois, il est un peu tard pour reculer.
Ou si je ne recule pas, mordieu, s'écria le bourgeois, en jurant, pour se monter la tête.
D'ailleurs, foi de Bonacieux.
Vous vous appelez Bonacieux? Interrompit d'Artagnan.
Oui, c'est mon nom.
Vous disiez donc, foi de Bonacieux, pardon si je vous ai interrompu, mais il me semblait que ce nom ne m'était pas inconnu.
C'est possible, monsieur, je suis votre propriétaire.
Ah, ah, fit d'Artagnan, en se soulevant à demi et en saluant.
Vous êtes mon propriétaire?
Oui, monsieur, oui.
Et comme depuis 3 mois que vous êtes chez moi, et que distrait sans doute par vos grandes occupations, vous avez oublié de me payer mon loyer, comme, dis-je, je ne vous ai pas tourmenté un seul instant, j'ai pensé que vous auriez égard à ma délicatesse. « Comment donc, mon cher monsieur Bonacieux ? » reprit d'Artagnan. « Croyez que je suis plein de reconnaissance pour un pareil procédé, et que, comme je vous l'ai dit, si je puis vous être bon à quelque chose... » « Je vous crois, monsieur, je vous crois. Et comme j'allais vous le dire, foi de Bonacieux, j'ai confiance en vous. » « Achevez donc ce que vous avez commencé à me dire. » Le bourgeois tira un papier de sa poche et le présenta à d'Artagnan. « Une lettre, fit le jeune homme, que j'ai reçue ce matin. » D'Artagnan l'ouvrit, et comme le jour commençait à baisser, il s'approcha de la fenêtre. Le bourgeois le suivit. « Ne cherchez pas votre femme, lut d'Artagnan. Elle vous sera rendue quand on n'aura plus besoin d'elle. Si vous faites une seule démarche pour la retrouver, vous êtes perdu. » « Voilà qui est positif, continua d'Artagnan. Mais après tout, ce n'est qu'une menace. Oui, mais cette menace m'épouvante, moi, monsieur. Je ne suis pas homme d'épée du tout, et j'ai peur de la Bastille. » « Hum, fit d'Artagnan, mais c'est que je ne me soucie pas plus de la Bastille que vous, moi. S'il ne s'agissait que d'un coup d'épée, passe encore. Cependant, monsieur, j'avais bien compté sur vous dans cette occasion. Oui. Vous voyant sans cesse entouré de mousquetaires à l'air fort superbe, et reconnaissant que ces mousquetaires étaient ceux de monsieur de Tréville, et par conséquent des ennemis du cardinal, j'avais pensé que vous et vos amis, tout en rendant justice à notre pauvre reine, seriez enchanté de jouer un mauvais tour à son éminence.
Sans doute.
Et puis, j'avais pensé que me devant 3 mois de loyer dont je ne vous ai jamais parlé...
Oui, oui, vous m'avez déjà donné cette raison, et je la trouve excellente.
Comptant de plus, tant que vous me ferez l'honneur de rester chez moi, ne jamais vous parler de votre loyer à venir.
Très bien.
Et ajoutez à cela, si besoin est, comptant vous offrir une 50aine de pistoles, si contre toute probabilité, vous vous trouviez gêné en ce moment.
À merveille! Mais vous êtes donc riche, mon cher monsieur Bonacieux?
Je suis à mon aise, monsieur, c'est le mot. J'ai amassé quelque chose comme 2 ou 3 000 écus de rente dans le commerce de la mercerie, et surtout, en plaçant des fonds sur le dernier voyage du célèbre navigateur Jean Mocquet. De sorte que, vous comprenez, monsieur ?
Ah, mais ! S'écria le bourgeois.
Quoi ? Demanda d'Artagnan.
Que vois-je là ?
Où ?
Dans la rue, en face de vos fenêtres, dans l'embrasure de cette porte, un homme enveloppé dans un manteau.
C'est lui ! S'écrièrent à la fois d'Artagnan et le bourgeois, chacun d'eux, en même temps, ayant reconnu son homme.
« Ah, cette fois !» s'écria d'Artagnan en sautant sur son épée. « Cette fois, il ne m'échappera pas !»
Et tirant son épée du fourreau, il se précipita hors de l'appartement. Sur l'escalier, il rencontra Athos et Porthos qui le venaient voir. Ils s'écartèrent. D'Artagnan passa entre eux comme un trait.
« Ah ça, où cours-tu ainsi ?» lui crièrent à la fois les deux mousquetaires.
« L'homme de Meung, » répondit d'Artagnan, et il disparut. D'Artagnan avait plus d'une fois raconté à ses amis son aventure avec l'inconnu, ainsi que l'apparition de la belle voyageuse à laquelle cet homme avait pu confier une si importante missive. La vie d'Athos avait été que d'Artagnan avait perdu sa lettre dans la bagarre. Un gentilhomme selon lui, et au portrait que d'Artagnan avait fait de l'inconnu, ce ne pouvait être qu'un gentilhomme. Un gentilhomme devait être incapable de cette bassesse, de voler une lettre. Porthos n'avait vu dans tout cela qu'un rendez-vous amoureux donné par une dame à un cavalier ou par un cavalier à une dame, et qui était venu troubler la présence de d'Artagnan et de son cheval jaune. Aramis avait dit que ces sortes de choses, étant mystérieuses, mieux valaient ne les point approfondir. Ils comprirent donc
sur les quelques mots échappés à D'Artagnan, de quelle affaire il était question. Et comme ils pensèrent qu'après avoir rejoint son homme ou l'avoir perdu de vue, D'Artagnan finirait toujours par remonter chez lui, ils continuèrent leur chemin. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de D'Artagnan, la chambre était vide. Le propriétaire, craignant les suites de la rencontre qui allait sans doute avoir lieu entre le jeune homme et l'inconnu, avait, par suite de l'exposition qu'il avait faite lui-même de son caractère, jugé qu'il était prudent de décamper. Fin du chapitre 8. Chapitre 9 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 9. D'Artagnan se dessine. Comme l'avaient prévu Athos et Porthos, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra. Cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. D'Artagnan avait couru, l'épée à la main, toutes les rues environnantes. Mais il n'avait rien trouvé qui ressemblât à celui qu'il cherchait. Puis enfin, il en était revenu à la chose par laquelle il aurait dû commencer peut-être, et qui était de frapper à la porte contre laquelle l'inconnu était appuyé. Mais c'était inutilement qu'il avait 10 ou 12 fois de suite fait résonner le marteau. Personne n'avait répondu, et des voisins qui, attirés par le bruit, étaient accourus sur le seuil de leur porte ou avaient mis le nez à leur fenêtre, lui avaient assuré que cette maison, dont au reste toutes les ouvertures étaient closes, était depuis 6 mois complètement inhabitée. Pendant que D'Artagnan courait les rues et frappait aux portes, Aramis avait rejoint ses deux compagnons, de sorte qu'en revenant chez lui, D'Artagnan trouva la réunion au grand complet. « Eh bien, » dirent ensemble les Trois Mousquetaires, en voyant entrer D'Artagnan, la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère. « Eh bien, » s'écria celui-ci, en jetant son épée sur le lit, « il faut que cet homme soit le diable en personne. » Il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre. « Croyez-vous aux apparitions ?» demanda Athos à Porthos. « Moi, je ne crois que ce que j'ai vu, et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas. » « La Bible, dit Aramis, nous fait une loi d'y croire. L'ombre de Samuel apparut à Saül, et c'est un article de foi que je serais fâché de voir mettre en doute, Porthos. » Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité, cet homme est né pour ma damnation, car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs, une affaire dans laquelle il y avait 100 pistoles et peut-être plus à gagner. « Comment cela ? » dirent à la fois Porthos et Aramis. Quant à Athos, fidèle à son système de mutisme, il se contenta d'interroger D'Artagnan du regard. « Planchet, » dit D'Artagnan à son domestique, qui passait en ce moment la tête par la porte entrebâillée pour tâcher de surprendre quelques bribes de la conversation, « descendez chez mon propriétaire, M. Bonacieux, et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaugency. C'est celui que je préfère. » « Ah, ça ! « Mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire ?» demanda Porthos. « Oui, » répondit D'Artagnan, « à compter d'aujourd'hui. Et soyez tranquille, si son vin est mauvais, nous lui en enverrons quérir d'autres. » « Il faut user et non abuser, » dit sentencieusement Aramis. « J'ai toujours dit que D'Artagnan était la forte tête de nous quatre, » fit Athos, qui, après avoir émis cette opinion, à laquelle D'Artagnan répondit par un salut, retomba aussitôt dans son silence accoutumé. « Mais enfin, voyons, qu'y a-t-il ? » demanda Porthos. « Oui, dit Aramis, confiez-nous cela, mon cher ami. à moins que l'honneur de quelques dames ne se trouve intéressé à cette confidence. En quel cas, vous feriez mieux de la garder pour vous.
« Soyez tranquille, » répondit D'Artagnan. « L'honneur de personne n'aura à se plaindre de ce que j'ai à vous dire. »
Et alors, il raconta mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte, et comment l'homme qui avait enlevé la femme du digne propriétaire était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l'hôtellerie du Franc Meunier.
« Votre affaire n'est pas mauvaise, » dit Athos, après avoir goûté le vin en connaisseur et indiqué d'un signe de tête qu'il le trouvait bon.
« Et l'on pourra tirer de ce brave homme 50 à 60 pistoles. Maintenant, reste à savoir si 50 à 60 pistoles valent la peine de risquer 4 têtes.
« Faites attention, » s'écria D'Artagnan, « qu'il y a une femme dans cette affaire, une femme enlevée, une femme qu'on menace sans doute, qu'on torture peut-être, et tout cela parce qu'elle est fidèle à sa maîtresse.
« Prenez garde, D'Artagnan, prenez garde, » dit Aramis. « Vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Madame Bonacieux. La femme a été créée pour notre perte, et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères. »
Athos, à cette sentence d'Aramis, fronça le sourcil et se mordit les lèvres.
« Ce n'est pas de Madame Bonacieux que je m'inquiète, » s'écria D'Artagnan, « mais de la reine que le roi abandonne, que le cardinal persécute, et qui voit tomber, les unes après les autres, les têtes de tous ses amis.
Pourquoi aime-t-elle ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais ?»«
L'Espagne est sa patrie, » répondit D'Artagnan, « et il est tout simple qu'elle aime les Espagnols, qui sont enfants de la même terre qu'elle. Quant au second reproche que vous lui faites, j'ai entendu dire qu'elle aimait non pas les Anglais, mais un Anglais.
« Et ma foi, » dit Athos, « il faut avouer que cet Anglais était bien digne d'être aimé. Je n'ai jamais vu plus grand air que le sien. »
« Sans compter qu'il s'habille comme personne, » dit Porthos. « J'étais au Louvre le jour où il a semé ses perles, et par Dieu, j'en ai ramassé 2 que j'ai bien vendu 10 pistoles pièce. Et toi, Aramis, le connais-tu ?»«
Aussi bien que vous, messieurs, car j'étais de ceux qui l'ont arrêté dans le jardin d'Amiens, où m'avait introduit M. de Putange, l'écuyer de la reine. J'étais au séminaire à cette époque, et l'aventure me parut cruelle pour le roi.
« Ce qui ne m'empêcherait pas, » dit D'Artagnan, « si je savais où est le duc de Buckingham, de le prendre par la main et de le conduire près de la reine, ne fût-ce que pour faire enrager M. le cardinal. Car notre véritable, notre seul, notre éternel ennemi, monsieur, c'est le cardinal. » Et si nous pouvions trouver moyen de lui jouer quelque tour bien cruel, j'avoue que j'y engagerais volontiers ma tête.
Et, reprit Athos, le mercier vous a dit, D'Artagnan, que la reine pensait qu'on avait fait venir Buckingham sur un faux avis.
Elle en a peur.
Attendez donc, dit Aramis.
Quoi ? Demanda Porthos.
Allez toujours, je cherche à me rappeler des circonstances.
Et maintenant, je suis convaincu, dit D'Artagnan, que l'enlèvement de cette femme de la reine se rattache aux événements dont nous parlons, et peut-être à la présence de M. de Buckingham à Paris.
Le Gascon est plein d'idées, dit Porthos avec admiration.
J'aime beaucoup l'entendre parler, dit Athos. Son patois m'amuse.
Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci.
Écoutons Aramis, dirent les trois amis.
Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelquefois pour mes études.
Athos sourit.
Il habite un quartier désert, continua Aramis. Ses goûts, sa profession l'exigent. Or, au moment où je sortais de chez lui, ici, Aramis s'arrêta.
Eh bien, demandèrent ses auditeurs, au moment où vous sortiez de chez lui?
Aramis parut faire un effort sur lui-même, comme un homme qui, en plein courant de mensonges, se voit arrêté par quelque obstacle imprévu. Mais les yeux de ses trois compagnons étaient fixés sur lui. Leurs oreilles attendaient béantes,
il n'y avait pas moyen de reculer. Ce docteur a une nièce, continua Aramis.
Ah, il a une nièce, interrompit Porthos.
Dame, fort respectable, dit Aramis. Les trois amis se mirent à rire.
Ah, si vous riez ou si vous doutez, reprit Aramis, vous ne saurez rien.
Nous sommes croyants comme des mahométistes et muets comme des catafalques, dit Athos.
Je continue donc, reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle. Or, elle s'y trouva hier en même temps que moi, par hasard, et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse.
Ah, elle a un carrosse, la nièce du docteur, interrompit Porthos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue.
Belle circonstance, mon ami.
Porthos, reprit Aramis, je vous ai déjà fait observer plus d'une fois que vous êtes fort indiscret, et que cela vous nuit près des femmes.
Messieurs, messieurs, s'écria d'Artagnan, qui entrevoyait le fond de l'aventure, la chose est sérieuse. Tâchons donc de ne pas plaisanter si nous pouvons. Allez, Aramis, allez.
Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme.
Tenez, dans le genre du vôtre, d'Artagnan.
Le même, peut-être, dit celui-ci.
C'est possible, continua Aramis.
S'approcha de moi, accompagné de 5 ou 6 hommes qui le suivaient à 10 pas en arrière, et du ton le plus poli.
Monsieur le duc, me dit-il, et vous, madame, continua-t-il en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras.
À la nièce du docteur?
« Silence donc, Porthos, dit Athos, vous êtes insupportable.
Veuillez monter dans ce carrosse, et cela sans essayer la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. »«
Il vous avait pris pour Buckingham, » s'écria d'Artagnan.
« Je le crois, » répondit Aramis.
« Mais cette dame, » demanda Porthos.
« Il l'avait prise pour la reine, » dit d'Artagnan.
« Justement, » répondit Aramis.
Le Gascon et le diable, s'écria Athos, rien ne lui échappe.
Le fait est, dit Porthos, qu'Aramis est de la taille et a quelque chose de la tournure du beau duc. Mais cependant, il me semble que l'habit de mousquetaire...
J'avais un manteau énorme, dit Aramis.
Au mois de juillet, diable, fit Porthos. Est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu?
Je comprends encore, dit Athos, que l'espion se soit laissé prendre par la tournure. Mais le visage...
J'avais un grand chapeau, dit Aramis.
Oh, mon Dieu, s'écria Porthos, que de précautions pour étudier la théologie.
Messieurs, messieurs, dit d'Artagnan, ne perdons pas notre temps à badiner. Éparpillons-nous et cherchons la femme du mercier. C'est la clé de l'intrigue.
Une femme de condition si inférieure, vous croyez, d'Artagnan? Fit Porthos, en allongeant les lèvres avec mépris.
C'est la filleule de la porte, le valet de confiance de la reine. Ne vous l'ai-je pas dit, messieurs? Et d'ailleurs, c'est peut-être un calcul de sa majesté, d'avoir été, cette fois, chercher ses appuis si bas. Les hautes têtes se voient de loin, et le cardinal a bonne vue.
Eh bien, dit Porthos, faites d'abord prix avec le mercier, et bon prix.
« C'est inutile, dit d'Artagnan, car je crois que s'il ne nous paie pas, nous serons assez payés d'un autre côté. »
En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier. La porte s'ouvrit avec fracas, et le malheureux mercier s'élança dans la chambre où se tenait le conseil.
« Ah, messieurs, s'écria-t-il, sauvez-moi, au nom du ciel, sauvez-moi. Il y a 4 hommes qui viennent pour m'arrêter. Sauvez-moi. « Sauvez-moi !»
Porthos et Aramis se levèrent.
« Un moment !» s'écria d'Artagnan, en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi tirées.
« Un moment. Ce n'est pas du courage qu'il faut ici, c'est de la prudence. »«
Cependant, » s'écria Porthos, « nous ne laisserons pas. »«
Vous laisserez faire d'Artagnan, » dit Athos. « C'est, je le répète, la forte tête de nous tous. Et moi, pour mon compte, » je déclare que je lui obéis. Fais ce que tu voudras, d'Artagnan. »
En ce moment, les 4 gardes apparurent à la porte de l'antichambre. et voyant quatre mousquetaires debout et l'épée au côté, hésitèrent à aller plus loin.
« Entrez, messieurs, entrez !» cria d'Artagnan. « Vous êtes ici chez moi, et nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal. Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions les ordres que nous avons reçus ?» demanda celui qui paraissait être le chef de l'escouade.
« Au contraire, messieurs, et nous vous prêterions main forte, si besoin était. »«
Mais que dit-il donc ?» marmotta Porthos.
« Tu es un niais, » dit Athos.
« Silence !»«
Mais vous m'avez promis, » dit tout bas le pauvre mercier.
« Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, » répondit rapidement et tout bas d'Artagnan. « Et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. »
« Il me semble, cependant... »«
Venez, messieurs, venez, » dit tout haut d'Artagnan. « Je n'ai aucun motif de défendre, monsieur. Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois. Et encore, à quelle occasion ? Il vous le dira lui-même, pour me venir réclamer le prix de mon loyer. Est-ce vrai, monsieur Bonacieux ? Répondez. »
« C'est la vérité pure, » s'écria le mercier. « Mais monsieur ne vous dit pas.
Silence sur moi, silence sur mes amis. « Silence sur la reine surtout, où vous perdrez tout le monde sans vous sauver.
« Allez, allez, messieurs, emmenez cet homme !»
Et d'Artagnan poussa le mercier tout étourdi aux mains de ses gardes, en lui disant
« Vous êtes un maraud, mon cher. Vous venez me demander de l'argent, à moi, à un mousquetaire, en prison. Messieurs, encore une fois, emmenez-le en prison, et gardez-le sous clé le plus longtemps possible. » Cela me donnera du temps pour payer. »
Les sbires se confondirent en remerciements et emmenèrent leur proie. Au moment où ils descendaient, d'Artagnan frappa sur l'épaule du chef. « Ne boirai-je pas à votre santé, et vous à la mienne ? » dit-il en remplissant deux verres du vin de Beaugency qu'il tenait de la libéralité de M. Bonacieux.
« Ce sera bien de l'honneur pour moi, » dit le chef des sbires. « Et j'accepte avec reconnaissance. »«
Donc, à la vôtre, monsieur. Comment vous nommez-vous »«
Boisrenard. »«
Monsieur Boisrenard. »«
À la vôtre, mon gentilhomme. Comment vous nommez-vous, à votre tour, s'il vous plaît ?»«
D'Artagnan. »«
À la vôtre, monsieur. »«
Et par-dessus toutes celles-là, » s'écria d'Artagnan, comme emporté par son enthousiasme, « à celle du roi et du cardinal. »
Le chef des sbires eût peut-être douté de la sincérité de d'Artagnan si le vin eût été mauvais. Mais le vin était bon, il fut convaincu.
« Mais que le diable de vilenie avez-vous donc fait là ?» dit Porthos, lorsque l'alguazil en chef eut rejoint ses compagnons, et que les quatre amis se trouvèrent seuls.
« Fis donc, quatre mousquetaires laissaient arrêter au milieu d'eux un malheureux qui crie à l'aide. » Un gentilhomme trinqué avec un recors.
« Porthos, » dit Aramis, « Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range à son avis. D'Artagnan, tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de M. de Tréville, je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye. »«
Ah, ça, je m'y perds, » dit Porthos. « Vous approuvez ce que d'Artagnan vient de faire ?»«
Je le crois pardieu bien, » dit Athos. « Non seulement j'approuve ce qu'il vient de faire, mais encore je l'en félicite. »«
Et maintenant, messieurs, » dit d'Artagnan, sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Porthos,
« tous pour un pour tous. C'est notre devise, n'est-ce pas ?»«
Cependant, » dit Porthos,
« étends la main et jure, » crièrent à la fois Athos et Aramis.
Vaincu par l'exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main. Et les quatre amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par d'Artagnan.
« Tous pour un pour tous. »
« C'est bien. Que chacun se retire maintenant chez soi, » dit d'Artagnan, comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. « Et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. »
Fin du chapitre 9.
« Chapitre 10 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 10. Une souricière au XVIIe siècle. L'invention de la souricière ne date pas de nos jours. Dès que les sociétés, en se formant, eurent inventé une police quelconque, cette police inventa les souricières. Comme peut-être nos lecteurs ne sont pas familiarisés encore avec l'argot de la rue de Jérusalem, et que c'est, depuis que nous écrivons, et il y a 15 ans de cela, la première fois que nous employons ce mot appliqué à cette chose, expliquons-leur ce que c'est qu'une souricière. Quand dans une maison, quelle qu'elle soit, on a arrêté un individu soupçonné d'un crime quelconque, on tient secrète l'arrestation. On place 4 ou 5 hommes en embuscade dans la première pièce, on ouvre la porte à tous ceux qui frappent, on la referme sur eux, et on les arrête de cette façon. Au bout de 2 ou 3 jours, on tient à peu près tous les familiers de l'établissement. Voilà ce que c'est qu'une souricière. On fit donc une souricière de l'appartement de Maître Bonacieux, et quiconque y apparut fut pris et interrogé par les gens de M. le cardinal. Il va sans dire que, comme une allée particulière conduisait au premier étage qu'habitait d'Artagnan, ceux qui venaient chez lui étaient exemptés de toute visite. D'ailleurs, les Trois Mousquetaires y venaient seuls. Ils s'étaient mis en quête, chacun de leur côté, et n'avaient rien trouvé, rien découvert. Athos avait été même jusqu'à questionner M. de Tréville, chose qui, vu le mutisme habituel du digne mousquetaire, avait fort étonné son capitaine. Mais M. de Tréville ne savait rien. Sinon que, la dernière fois qu'il avait vu le cardinal, le roi et la reine, le cardinal avait l'air fort soucieux, que le roi était inquiet, et que les yeux rouges de la reine indiquaient qu'elle avait veillé ou pleuré. Mais cette dernière circonstance l'avait peu frappé, la reine, depuis son mariage, veillant et pleurant beaucoup. M. de Tréville recommanda, en tout cas à Athos, le service du roi et surtout celui de la reine, le priant de faire la même recommandation à ses camarades. Quant à d'Artagnan, il ne bougeait pas de chez lui. Il avait converti sa chambre en observatoire. Des fenêtres, il voyait arriver ceux qui venaient se faire prendre. Puis, comme il avait ôté les carreaux du plancher, qu'il avait creusé le parquet, et qu'un simple plafond le séparait de la chambre au-dessous, où se faisaient les interrogatoires, il entendait tout ce qui se passait entre les inquisiteurs et les accusés. Les interrogatoires, précédés d'une perquisition minutieuse opérée sur la personne arrêtée, étaient presque toujours ainsi conçus. « Madame Bonacieux vous a-t-elle remis quelque chose pour son mari ou pour quelque autre personne ?»« Monsieur Bonacieux vous a-t-il remis quelque chose pour sa femme ou pour quelque autre personne ?» L'un et l'autre vous ont-ils fait quelque confidence de vive voix? S'ils savaient quelque chose, ils ne questionneraient pas ainsi, se dit à lui-même d'Artagnan. Maintenant, que cherchent-ils à savoir? Si le duc de Buckingham ne se trouve point à Paris, et s'il n'a pas eu, ou s'il ne doit point avoir quelque entrevue avec la reine? D'Artagnan s'arrêta à cette idée. Qui, d'après tout ce qu'il avait entendu, ne manquait pas de probabilité. En attendant, la souricière était en permanence, et la vigilance de d'Artagnan aussi. Le soir du lendemain de l'arrestation du pauvre Bonacieux, comme Athos venait de quitter d'Artagnan pour se rendre chez M. de Tréville, comme 9 heures venaient de sonner, et comme Planchet, qui n'avait pas encore fait le lit, commençait sa besogne, on entendit frapper à la porte de la rue. Aussitôt, cette porte s'ouvrit et se referma. Quelqu'un venait de se prendre à la souricière. D'Artagnan s'élança vers l'endroit décarrelé, se coucha ventre à terre et écouta.
des cris retentirent bientôt, puis des gémissements qu'on cherchait à étouffer. D'interrogatoire, il n'en était pas question. « Diable !» se dit D'Artagnan, « il me semble que c'est une femme. On la fouille, elle résiste, on la violente, les misérables !» Et D'Artagnan, malgré sa prudence, se tenait à quatre pour ne pas se mêler à la scène qui se passait au-dessous de lui. « Mais je vous dis que je suis la maîtresse de la maison, messieurs. Je vous dis que je suis Madame Bonacieux. Je vous dis que j'appartiens à la reine !» s'écriait la malheureuse femme. « Madame Bonacieux, murmura D'Artagnan, serais-je assez heureux pour avoir trouvé ce que tout le monde cherche ?»«
C'est justement vous que nous attendions, » reprirent les interrogateurs. La voix devint de plus en plus étouffée. Un mouvement tumultueux fit retentir les boiseries. La victime résistait autant qu'une femme peut résister à quatre hommes.
« Pardon, messieurs, par... » murmura la voix, qui ne fut plus entendre que des sons inarticulés.
« Ils la bâillonnent, ils vont l'entraîner, » s'écria D'Artagnan, en se redressant comme par un ressort.
« Mon épée, bon, elle est à mon côté. Planchet !»«
Monsieur ?»«
Cours chercher Athos, Porthos et Aramis. L'un des trois sera sûrement chez lui. Peut-être tous les trois seront-ils rentrés. Qu'ils prennent des armes. » Qu'ils viennent, qu'ils accourent. Ah, je me souviens. Athos est chez M. de Tréville.
Mais où allez-vous, monsieur? Où allez-vous?
Je descends par la fenêtre, s'écria D'Artagnan, afin d'être plus tôt arrivé. Toi, remets les carreaux, balaie le plancher, sors par la porte et cours où je te dis.
Oh, monsieur, monsieur, vous allez vous tuer, s'écria Planchet.
Tais-toi, imbécile, dit D'Artagnan.
Et s'accrochant de la main au rebord de sa fenêtre, il se laissa tomber du premier étage, qui, heureusement, n'était pas élevé, sans se faire une écorchure. Puis il alla frapper à la porte en murmurant « Je vais me faire prendre à mon tour dans une souricière, et malheur aux chats qui se frotteront à pareille souris. » À peine le marteau eut-il résonné sous la main du jeune homme que le tumulte cessa. Que des pas s'approchèrent, que la porte s'ouvrit, et que D'Artagnan, l'épée nue, s'élança dans l'appartement de Maître Bonacieux, dont la porte, sans doute mue par un ressort, se referma d'elle-même sur lui. Alors, ceux qui habitaient encore la malheureuse maison de Bonacieux, et les voisins les plus proches, entendirent de grands cris, des trépignements, un cliquetis d'épée et un bruit prolongé de meubles. Puis, un moment après, ceux qui, surpris par ce bruit, s'étaient mis aux fenêtres pour en connaître la cause, purent voir la porte se rouvrir et quatre hommes vêtus de noir, non pas en sortir, mais s'envoler comme des corbeaux effarouchés, laissant par terre et aux angles des tables des plumes de leurs ailes, c'est-à-dire des loques de leurs habits et des bribes de leurs manteaux. D'Artagnan était vainqueur sans beaucoup de peine, il faut le dire, car un seul des alguazils était armé. Encore se défendit-il pour la forme. Il est vrai que les trois autres avaient essayé d'assommer le jeune homme avec les chaises, les tabourets et les poteries. Mais deux ou trois égratignures faites par la flamberge du Gascon les avaient épouvantés. 10 minutes avaient suffi à leur défaite, et D'Artagnan était resté maître du champ de bataille. Les voisins, qui avaient ouvert leurs fenêtres avec le sang-froid particulier aux habitants de Paris dans ces temps d'émeutes et de rixes perpétuelles, les refermèrent dès qu'ils eurent vu s'enfuir les quatre hommes noirs. Leur instinct leur disait que pour le moment tout était fini. D'ailleurs, il se faisait tard, et, alors comme aujourd'hui, on se couchait de bonne heure dans le quartier du Luxembourg. D'Artagnan, resté seul avec Madame Bonacieux, se retourna vers elle. La pauvre femme était renversée sur un fauteuil et à demi évanouie. D'Artagnan l'examina d'un coup d'œil rapide. C'était une charmante femme de 25 à 26 ans, brune, avec des yeux bleus, et ayant un nez légèrement retroussé, des dents admirables, un teint marbré de rose et d'opale. Là, cependant, s'arrêtaient les signes qui pouvaient la faire confondre avec une grande dame. Les mains étaient blanches, mais sans finesse. Les pieds n'annonçaient pas la femme de qualité. Heureusement, D'Artagnan n'en était pas encore à se préoccuper de ces détails. Tandis que D'Artagnan examinait Madame Bonacieux, et en était aux pieds, comme nous l'avons dit, il vit à terre un fin mouchoir de batiste, qu'il ramassa, selon son habitude, et au coin duquel il reconnut le même chiffre qu'il avait vu au mouchoir qui avait failli lui faire couper la gorge avec Aramis. Depuis ce temps, D'Artagnan se méfiait des mouchoirs armoriés. Il remit donc, sans rien dire, celui qu'il avait ramassé dans la poche de Madame Bonacieux. En ce moment, Madame Bonacieux reprenait ses sens. Elle ouvrit les yeux, regarda avec terreur autour d'elle, vit que l'appartement était vide et qu'elle était seule avec son libérateur. Elle lui tendit aussitôt les mains en souriant. Madame Bonacieux avait le plus charmant sourire du monde. « Ah, monsieur, dit-elle, c'est vous qui m'avez sauvé. Permettez-moi que je vous remercie. » « Madame, dit D'Artagnan, je n'ai fait que ce que tout gentilhomme eût fait à ma place. Vous ne me devez donc aucun remerciement. Si fait, monsieur, si fait, et j'espère vous prouver que vous n'avez pas rendu service à une ingrate. Mais que me voulaient donc ces hommes, que j'ai pris d'abord pour des voleurs, et pourquoi monsieur Bonacieux n'est-il point ici ? Madame, ces hommes étaient bien autrement dangereux que ne pourraient être des voleurs, car ce sont des agents de monsieur le cardinal. Et quant à votre mari, monsieur Bonacieux, il n'est point ici, parce qu'hier, on est venu le prendre pour le conduire à la Bastille. « Mon mari à la Bastille !» s'écria Madame Bonacieux. « Oh, mon Dieu! Qu'a-t-il donc fait? Pauvre cher homme! Lui, l'innocence même !» Et quelque chose comme un sourire perçait sur la figure encore toute effrayée de la jeune femme. « Ce qu'il a fait, madame, dit D'Artagnan, je crois que son seul crime est d'avoir à la fois le bonheur et le malheur d'être votre mari. Mais, monsieur, vous savez donc? Je sais que vous avez été enlevée, madame. Et par qui? Le savez-vous? Oh, si vous le savez, dites-le-moi! Par un homme de 40 à 45 ans, aux cheveux noirs, au teint basané, avec une cicatrice à la tempe gauche. C'est cela, c'est cela. Mais son nom? Ah, son nom, c'est ce que j'ignore. Et mon mari savait-il que j'avais été enlevée? Il en avait été prévenu par une lettre que lui avait écrite le ravisseur lui-même. Et soupçonne-t-il, demanda Madame Bonacieux avec embarras, la cause de cet événement? Il l'attribuait, je crois, à une cause politique. J'en ai douté d'abord, et maintenant je le pense comme lui. Ainsi donc, ce cher monsieur Bonacieux ne m'a pas soupçonné un seul instant. Ah, loin de là, madame, il était trop fier de votre sagesse, et surtout de votre amour. Un second sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres rosées de la belle jeune femme. Mais, continua D'Artagnan, comment vous êtes-vous enfui? J'ai profité d'un moment où on m'a laissé seule, et comme je savais depuis ce matin à quoi m'en tenir sur mon enlèvement, à l'aide de mes draps, je suis descendue par la fenêtre. Alors, comme je croyais mon mari ici, je suis accourue. Pour vous mettre sous sa protection? Oh non, pauvre cher homme, je savais bien qu'il était incapable de me défendre. Mais comme il pouvait nous servir à autre chose, je voulais le prévenir. De quoi? Oh, ceci n'est pas mon secret, je ne puis donc pas vous le dire. D'ailleurs, dit D'Artagnan, pardon, madame, si tout garde que je suis, je vous rappelle à la prudence. D'ailleurs, je crois que nous ne sommes pas ici en lieu opportun pour faire des confidences. Les hommes que j'ai mis en fuite vont revenir avec main forte. S'ils nous retrouvent ici, nous sommes perdus. J'ai bien fait de prévenir trois de mes amis. Mais qui sait
si on les aura trouvés chez eux ?»«
Oui, oui, vous avez raison, » s'écria Madame Bonacieux, effrayée. « Fuyons, sauvons-nous !»
À ces mots, elle passa son bras sous celui de D'Artagnan et l'entraîna vivement.
« Mais où fuir ?» dit D'Artagnan. « Où nous sauver ?»«
Éloignons-nous d'abord de cette maison, puis après nous verrons. »
Et la jeune femme et le jeune homme, sans se donner la peine de refermer la porte, descendirent rapidement la rue des Fossoyeurs, s'engagèrent dans la rue des Fossés Monsieur le Prince, et ne s'arrêtèrent qu'à la place Saint-Sulpice.
« Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» demanda D'Artagnan. « Et où voulez-vous que je vous conduise ?»«
Je suis bien embarrassée de vous répondre, je vous l'avoue, » dit Madame Bonacieux. « Mon intention était de faire prévenir Monsieur de la Porte par mon mari, afin que Monsieur de la Porte pût nous dire précisément ce qui s'était passé au Louvre depuis 3 jours, et s'il n'y avait pas danger pour moi de m'y présenter.
« Mais moi, » dit D'Artagnan, « je puis aller prévenir Monsieur de la Porte. »
« Sans doute, seulement il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on connaît Monsieur Bonacieux au Louvre et qu'on le laisserait passer, lui, tandis qu'on ne vous connaît pas, vous, et que l'on vous fermera la porte. »
« Ah, bah, » dit D'Artagnan, « vous avez bien, à quelque guichet du Louvre, un concierge qui vous est dévoué, et qui, grâce à un mot d'ordre... »
Madame Bonacieux regarda fixement le jeune homme.
« Et si je vous donnais ce mot d'ordre, » dit-elle, « l'oublieriez-vous aussitôt que vous vous en seriez servi ?»«
Parole d'honneur, foi de gentilhomme, » dit D'Artagnan, avec un accent à la vérité duquel il n'y avait pas à se tromper.
« Tenez, je vous crois. Vous avez l'air d'un brave jeune homme. D'ailleurs, votre fortune est peut-être au bout de votre dévouement. »
« Je ferai sans promesse et de conscience tout ce que je pourrai pour servir le roi et être agréable à la reine, » dit D'Artagnan. « Disposez de moi comme d'un ami. »
« Mais moi, où me mettrez-vous pendant ce temps-là »
« N'avez-vous pas une personne chez laquelle M. de la Porte puisse revenir vous prendre ?»«
Non, je ne veux me fier à personne. »
« Attendez, » dit D'Artagnan, « nous sommes à la porte d'Athos. »«
Oui, c'est cela. » « Qu'est-ce qu'Athos ?»«
Un de mes amis. »«
Mais s'il est chez lui et qu'il me voit ?»«
Il n'y est pas, et j'emporterai la clé après vous avoir fait entrer dans son appartement. »«
Mais s'il revient ?»«
Il ne reviendra pas. D'ailleurs, on lui dirait que j'ai amené une femme, et que cette femme est chez lui. »«
Mais cela me compromettra fort, savez-vous ?»«
Que vous importe, on ne vous connaît pas. D'ailleurs, nous sommes dans une situation à passer par-dessus quelques convenances.
Allons donc chez votre ami. Où demeure-t-il ?
Rue Férou, à 2 pas d'ici.
Allons.
Et tous deux reprirent leur course. Comme l'avait prévu D'Artagnan, Athos n'était pas chez lui. Il prit la clé, qu'on avait l'habitude de lui donner comme à un ami de la maison, monta l'escalier et introduisit Madame Bonacieux dans le petit appartement dont nous avons déjà fait la description.
Vous êtes chez vous, dit-il. Attendez, fermez la porte en dedans et n'ouvrez à personne, à moins que vous n'entendiez frapper 3 coups ainsi. Tenez. Et il frappa 3 fois. 2 coups rapprochés l'un de l'autre et assez fort, 1 coup plus distant et plus léger.
C'est bien, dit Madame Bonacieux. Maintenant, à mon tour de vous donner mes instructions.
J'écoute. Présentez-vous au guichet du Louvre, du côté de la rue de l'Échelle, et demandez Germain.
C'est bien. Après?
Il vous demandera ce que vous voulez, et alors vous lui répondrez par ces 2 mots, Tours et Bruxelles. Aussitôt, il se mettra à vos ordres.
Et que lui ordonnerai-je?
D'aller chercher Monsieur de la Porte, le valet de chambre de la reine.
Et quand il l'aura été cherché, et que Monsieur de la Porte sera venu,
vous me l'enverrez.
C'est bien. Mais où et comment vous reverrai-je?
Y tenez-vous beaucoup à me revoir?
Certainement.
Eh bien, reposez-vous sur moi de ce soin et soyez tranquille.
Je compte sur votre parole.
Comptez-y. »
D'Artagnan salua Madame Bonacieux en lui lançant le coup d'œil le plus amoureux qu'il lui fut possible de concentrer sur sa charmante petite personne. Et tandis qu'il descendait l'escalier, il entendit la porte se fermer derrière lui à double tour. En deux bonds, il fut au Louvre. Comme il entrait au guichet de l'échelle, 10 heures sonnaient. Tous les événements que nous venons de raconter s'étaient succédés en une demi-heure. Tout s'exécuta comme l'avait annoncé Madame Bonacieux. Au mot d'ordre convenu, Germain s'inclina. 10 minutes après, la porte était dans la loge. En deux mots, D'Artagnan le mit au fait et lui indiqua où était Madame Bonacieux. La porte s'assura par deux fois de l'exactitude de l'adresse et partit en courant. Cependant, à peine eut-il fait 10 pas en avant qu'il revint. « Jeune homme, dit-il à D'Artagnan, un conseil. Lequel ? Vous pourriez être inquiété pour ce qui vient de se passer. Vous croyez ? Oui. Avez-vous quelque ami dont la pendule retarde ? Eh bien, allez le voir, pour qu'il puisse témoigner que vous étiez chez lui à 9h30. En justice, cela s'appelle un alibi. » D'Artagnan trouva le conseil prudent. Il prit ses jambes à son cou. Il arriva chez M. de Tréville, mais au lieu de passer au salon avec tout le monde, il demanda à entrer dans son cabinet. Comme D'Artagnan était un des habitués de l'hôtel, on ne fit aucune difficulté d'accéder à sa demande, et l'on alla prévenir M. de Tréville que son jeune compatriote, ayant quelque chose d'important à lui dire, sollicitait une audience particulière. 5 minutes après, M. de Tréville demandait à D'Artagnan ce qu'il pouvait faire pour son service et ce que lui valait sa visite à une heure si avancée. « Pardon, monsieur, dit D'Artagnan, qui avait profité du moment où il était resté seul pour retarder l'horloge de 3 quarts d'heure. J'ai pensé que, comme il n'était que 9h25, il était encore temps de me présenter chez vous. » « 9h25, s'écria M. de Tréville en regardant sa pendule. « Mais c'est impossible. » « Voyez plutôt, monsieur, dit D'Artagnan, voilà qui fait foi. »« C'est juste, dit M. de Tréville. J'aurais cru qu'il était plus tard. Mais voyons, que me voulez-vous ? » Alors, D'Artagnan fit à M. de Tréville une longue histoire sur la reine. Il lui exposa les craintes qu'il avait conçues à l'égard de Sa Majesté. Il lui raconta ce qu'il avait entendu dire des projets du cardinal à l'endroit de Buckingham. Et tout cela, avec une tranquillité et un aplomb, dont M. de Tréville fut d'autant mieux la dupe, que lui-même, comme nous l'avons dit, avait remarqué quelque chose de nouveau entre le cardinal, le roi et la reine. À 10 heures sonnant, D'Artagnan quitta M. de Tréville, qui le remercia de ses renseignements, lui recommanda d'avoir toujours à cœur le service du roi et de la reine, et qui rentra dans le salon. Mais, au bas de l'escalier, D'Artagnan se souvint qu'il avait oublié sa canne. En conséquence, il remonta précipitamment, rentra dans le cabinet, d'un tour de doigt remit la pendule à son heure, pour qu'on ne pût pas s'apercevoir, le lendemain, qu'elle avait été dérangée, et sûr désormais qu'il y avait un témoin pour prouver son alibi, il descendit l'escalier et se trouva bientôt dans la rue. Fin du chapitre 10.